Herztöne, battement de cœur, le podcast de la Fédération Suisse des Sages-Femmes.
L'enjeu autour de la mortalité, il est assez important parce qu'on a eu une réduction de la mortalité maternelle pendant 15 ans. On a réduit de 50%, on est passé de 1,5 million à 250 000 femmes qui décédaient par an. Et puis en fait, depuis presque une dizaine d'années maintenant, on voit une stagnation. Alors une stagnation au niveau mondial, ça veut dire qu'il y a des pays qui continuent à améliorer l'état de santé. Et puis il y en a d'autres pour qui on a une recrudescence de mortalité maternelle. Et puis en fait, quand on regarde dans les détails, c'est principalement dans des contextes de crise. On a une mortalité maternelle, plus de 50% de cette mortalité, elle est dans ces contextes-là, qui sont 90% de notre activité.
Chaque année dans le monde, Médecins sans frontières accompagne 300 000 accouchements et réalise 700 000 consultations de suivi de grossesse. MSF Suisse diffuse à Genève jusqu'au 18 juillet un film en expérience immersive consacré à la naissance. L'occasion de rencontrer Nelly Staderini, sage-femme et référente santé femme pour MSF Suisse. Dans cet épisode, elle nous parle des actions de MSF sur le terrain et des enjeux mondiaux concernant la santé des femmes et des nouveau-nés.
Bonjour Nelly, est-ce que tu peux te présenter et présenter ton activité pour Médecins sans frontières ?
Oui, bonjour, je m'appelle Nelly Staderini, je suis sage-femme, j'ai été formée en France il y a plus de 20 ans, j'ai travaillé dans des maternités bondées, notamment à Bondy, et je me suis engagée dans l'action humanitaire depuis plus de 20 ans également. J'étais au Cambodge, au Pakistan, en Afghanistan, en Guinée, au Mali, j'ai passé 4 ans au Tchad, j'étais au Burundi, et puis ensuite je suis arrivée à Genève pour quelques années, et puis ça fait 13 ans que je suis là. Je m'occupe de coordonner l'unité sur la santé des femmes et des enfants au département médical de Médecins sans frontières, donc la santé femme, les santé maternelle, les violences sexuelles, la pédiatrie, la nutrition et la vaccination.
On a l'image d'une action de Médecins sans frontières particulièrement axée sur les moments de crise. Alors déjà, quel est le rôle de Médecins sans frontières dans ces moments-là concernant la santé maternelle et infantile, et quels sont les autres terrains aussi de MSF ?
Alors oui, je pense que les questions de crise, il y a une compétition des besoins, donc là on va un petit peu à l'essentiel et puis on est vraiment là pour réduire des mortalités maternelles et néonatales. Donc effectivement, je pense que le point d'ancrage, ça reste les maternités et puis le travail notamment avec les communautés, les accoucheuses traditionnelles pour être sûr que les femmes puissent avoir accès. Après, une grande partie aussi de nos activités sont pas dans des contextes de crise géopolitique, mais sont dans des contextes de crise sanitaire ou autres. J'ai par exemple en tête Eswatini, sur lequel on a travaillé pendant plus de 20 ans de manière assez verticale sur le VIH. Et puis petit à petit, on a monté maintenant un projet de santé sexuelle qui tourne autour de la contraception, le dépistage et le traitement des maladies sexuellement transmissibles, les questions d'avortement et le dépistage du cancer du col de l'utérus. Donc voilà, on s'éloigne, on ne voit plus les femmes porteuses d'enfants, on considère les femmes que dans leur vie de femme. Et puis plus que ça, on essaye aussi d'aborder les partenaires, les hommes, qui de temps en temps sont les oubliés de nos soins. Ils sont quand même encore une minorité à venir, et même quand on leur donne des lettres, on appelle ça les partenaires, pour les inciter à venir aussi faire du dépistage, ils sont encore un peu timides. Donc je pense que c'est intéressant déjà d'avoir plus de données autour de ça, de travailler et puis d'aller les voir dans les communautés, d'ouvrir le dialogue, la discussion, et puis peut-être de les écouter, de voir comment eux ils verraient les choses.
Est-ce que tu peux expliquer un petit peu dans quel genre de structure ou sous quelle forme de structure MSF agit ? Est-ce que tu peux faire une sorte de typologie du mode d'action de MSF ?
Oui, donc on peut intervenir directement au sein des communautés, on peut intervenir dans des centres de santé, donc on appelle des structures primaires, on peut intervenir au niveau des hôpitaux, donc des structures secondaires, ou de temps en temps même des hôpitaux de référence. Alors, de temps en temps, et je dirais même de plus en plus, on va être en appui à des structures préexistantes, souvent du ministère de la Santé, et c'est vraiment dans des cas de catastrophes extrêmes où MSF va tout seul mettre un hôpital sous tente, plutôt que monter une structure, faire la construction, c'est souvent plutôt en appui par rapport à des structures préexistantes. Mais si je pense par exemple en Ukraine, les cliniques mobiles, en fait, les gens avaient été déplacés dans des dans des grands immeubles. Et puis donc nous, on arrivait au niveau de l'entrée, puis on allait discuter avec les gens pour comprendre en fait où est-ce qu'on allait pouvoir se mettre. Et puis timidement, ils nous montraient une ou deux salles comme ça. Et puis et donc c'est voilà, l'équipe arrive avec des grandes malles en plastique pleines de médicaments. Et puis on se met discrètement là où les gens pensent que c'est le meilleur endroit. Donc ça peut être de temps en temps. Ça paraît très précaire, mais il suffit de sécuriser un endroit avec une confidentialité, puis d'expliquer aux gens où on est et ce qu'on fait. Et puis les gens arrivent.
Et vous recrutez du personnel local aussi?
Donc on travaille principalement avec du personnel local. On a un ratio de, je dirais, 1 pour 10 ou 1 pour 20. C'est-à-dire on va envoyer une sage-femme internationale pour gérer une équipe de temps en temps 10 ou 20 sages-femmes nationales, ce qui représente en général un défi parce que les gens sont pas forcément formés au management et ça représente une grosse partie de leur activité au quotidien.
Quels sont les enjeux aujourd'hui à travers le monde concernant la santé maternelle et infantile ? Ou la mortalité maternelle et infantile.
L'enjeu autour de la mortalité, il est assez important parce qu'on a eu une réduction de la mortalité maternelle pendant 15 ans. On a réduit de 50%. On est passé de 1,5 million à 250 000 femmes qui décédaient par an.
De femmes qui meurent en contexte de grossesse et d'accouchement, c'est ça, hein?
Oui. Et puis en fait, depuis presque une dizaine d'années maintenant, on voit une stagnation. Alors une stagnation au niveau mondial, ça veut dire qu'il y a des pays qui continuent à améliorer l'état de santé. Et puis il y en a d'autres pour qui on a une recrudescence de mortalité maternelle. Et puis en fait, quand on regarde dans les détails, c'est principalement dans des contextes de crise. Plus de 50% de cette mortalité, elle est dans ces contextes-là, qui sont 90% de notre activité. Donc ça montre à quel point on ne peut pas passer à côté de ces enjeux maternelle. Après, les défis qui vont avec, c'est la continuité des soins, c'est de pouvoir travailler en compétition avec d'autres besoins. Donc, comment on va arriver à inscrire à l'agenda le fait de pouvoir répondre. Et puis ensuite, c'est pouvoir trouver les gens, former les gens pour donner des soins de qualité, qu'ils aient aussi le matériel et les infrastructures qui permettent la qualité des soins.
Et qu'est-ce qui est identifié aujourd'hui comme étant les besoins les plus aigus sur le terrain ou sur les terrains?
Alors les besoins les plus aigus, je pense qu'effectivement c'est la période de l'accouchement. Donc ça reste une prise de risque de mourir et pour la mère et pour l'enfant à naître. Donc c'est quand même une activité primordiale. Par contre, se limiter à ça, c'est un peu compliqué parce que on peut avoir des signes de complications qui vont apparaître pendant la grossesse. Et puis aussi, il y a plein d'activités préventives qui peuvent être mises en place quand on suit les femmes, notamment pendant les consultations anténatales. Donc, de temps en temps, c'est moins vu comme une activité d'urgence, c'est vrai, mais en même temps, ça permet de détecter, de mettre en place des activités de prévention et puis de traiter et d'éviter des complications. C'est pareil pour le postpartum. C'est vrai que les femmes, la définition de la mortalité maternelle, c'est jusqu'au 42e jour. Et puis, finalement, c'est pas toujours évident de les voir une fois qu'elles partent des maternités. Donc, faut un peu aller à la pêche dans les communautés parce que, voilà, elles ont quand même un risque d'hémorragie, un risque d'infection et voilà. Donc je pense que c'est toute la globalité de la périnatalité qu'il faut regarder. Après, on a la contraception. On est souvent dans des populations où plus de 50% des femmes qui voudraient avoir accès aux moyens contraceptifs n'ont pas accès. Donc là, on a une vraie valeur ajoutée à MSF en mettant en place ces consultations, la qualité des soins et puis l'offre de différents moyens contraceptifs. Après, il y a la question d'avortement, encore très tabou, lié avec des enjeux religieux, légaux et autres, qui fait en sorte qu'on intervient principalement dans des contextes où c'est très difficile pour les femmes d'avoir accès à des pratiques qui ne leur font pas risquer leur vie ou des complications. Donc mettre en place ces activités aujourd'hui, ça reste primordial. Ça peut se faire dans la maternité, mais ça peut aussi se faire à la maison parce qu'on a aujourd'hui développé des protocoles et des possibilités d'auto-soins.
Et comment c'est accueilli, ça, ce genre d'action?
Bah, je pense que les gens sont assez intéressés parce que l'accès il va dans les deux sens. De temps en temps, on a des difficultés d'accès aux populations et puis de temps en temps, c'est les populations qui ont une difficulté d'accès à nous. Donc, mettre en place des choses comme ça, ça va permettre l'autonomie, notamment des femmes et des populations sur des enjeux de santé. Alors, ce qui est un peu compliqué, c'est que de temps en temps, ça fait pas forcément partie des protocoles des ministères ou même de temps en temps, on a aussi du personnel qui est assez frileux et qui pense toujours que les populations ne vont pas pouvoir se prendre en soins elles-mêmes. Donc il y a un vrai travail pour établir cette confiance entre les populations, les personnels de soignants et puis ce qu'on peut apporter comme expertise avec MSF.
Mais comment on le fait ce travail-là, du coup, concrètement ?
Ben concrètement, ça veut dire qu'on va organiser des groupes de discussion, ça veut dire qu'on va leur expliquer de quoi on parle, ça veut dire qu'on va essayer de comprendre, par exemple, dans les méthodes contraceptives, quelles sont les préférées des femmes. Et puis ensuite, on va former le personnel, on va former le personnel à former aussi les femmes qui peuvent faire ce travail dans la communauté. Et puis ensuite, on va monitorer, on va voir ce qui marche, ce qui marche pas, pourquoi, est-ce que ça vaut le coup de réinvestir là-dedans ou pas. Donc ça demande un travail de terrain de longue haleine.
Il y a aussi peut-être une question un peu moins habituelle quand on parle des missions d'MSF qui serait autour de la gestion de la fertilité. Est-ce que c'est une question qui émerge sur les terrains ?
Voilà, c'est une très bonne question parce que nous, ça faisait comme ça pas partie de nos stratégies opérationnelles, on va dire ça comme ça, ou de nos paquets de soins d'ailleurs. Et puis là, il y a 2 ans, je crois qu'on s'est retrouvés en grosse urgence au niveau du Sud-Soudan et puis on a voulu faire les choses un peu différemment. Donc on a fait des focus group discussions au niveau de la communauté. Puis c'est la principale demande qui est ressortie de la part des femmes. Donc l'équipe a mis ça sous forme de rapport. On les a un peu laissés aller en se disant avec quoi ils vont venir en fait comme solution. Et puis petit à petit, on s'est rendu compte que ce qu'ils proposaient comme solution, c'était autour des questions d'avortement et puis de dépistage et de traitement des maladies sexuellement transmissibles. Parce que on voit que c'est quand même 2 portes d'entrée qu'on sait faire et qui ont un impact. Faire plus que ça aujourd'hui dans des contextes comme ça, c'est quand même un peu compliqué, on ne peut pas tout résoudre.
Et comment on explique que cette question de la fertilité, même dans des situations de crise, soit aussi prégnante ?
On est principalement dans des contextes où être enceinte et avoir des enfants, c'est fondamental. C'est un rôle de la femme dans la société, donc par rapport au mari, par rapport à la famille, par rapport à la communauté, qu'on le veuille ou non, elles n'ont pas forcément le choix, quoi.
MSF diffuse actuellement un film à Genève, dans le Jardin des Nations, qui s'appelle Mother to Be, point d'interrogation. Qu'est-ce que tu retiens, toi, de ce film? Est-ce qu'il y a un témoignage qui t'a particulièrement marqué?
Oui, alors quand l'équipe de la communication est venue me voir et me demander un peu quelles étaient mes ambitions, mes rêves autour de ça, moi je leur ai dit j'aimerais qu'on puisse donner la parole aux femmes et je pense que c'est très réussi effectivement. Donc ils ont été dans plein de pays, ils ont recueilli des tas de témoignages, plus que des témoignages, ils ont aussi enregistré des berceuses que les femmes chantaient à leur nouveau-né. Je trouve que c'est un film qui est très poignant. Après, je trouve très intéressant de voir l'optimisme qui a derrière les maternités qu'elles portent et puis les enfants qu'elles mettent au monde. Et en même temps, ce qui m'a le plus frappé, c'est le témoignage d'une femme qui dit à son enfant « J'espère que tu auras le droit de te tromper ». Je trouve que c'est très beau, je trouve que la prise de risque c'est quelque chose qu'il faut valoriser parce que c'est ce qui permet aussi d'aller plus loin, l'innovation. Et on est vraiment dans des sociétés où on essaye toujours de tout sécuriser.
Est-ce que tu aurais envie de dire quelque chose aux sages-femmes qui nous écoutent et qui seraient éventuellement tentées par une expérience de volontariat auprès de MSF ?
Alors oui, moi j'ai envie de dire engagez-vous, parce que souvent il y a une forme de timidité, les gens n'osent pas trop, pour différentes raisons. Je pense que nous, ce qu'on demande, c'est avoir minimum 2 ans d'expérience. Alors ça, c'est pas parce que vous allez être confronté à 10 000 accouchements le même jour en arrivant sur le terrain, mais plutôt parce que vous êtes la personne de confiance, vous êtes la personne de référence. Donc on va vous appeler à 3 heures du matin pour le cas le plus compliqué. Donc voilà, c'est une question de crédibilité, de légitimité auprès de cette équipe que de toute façon les sages-femmes vont manager. Donc voilà, après, nous, on a un pool de 80 à 100 sages-femmes. C'est le pool où on a le plus fort ratio d'évolution professionnelle vers ensuite de la coordination médicale. Donc ça, c'est quand même c'est assez intéressant. Et puis après, on propose aussi aux sages-femmes de se spécialiser, notamment de rentrer dans le pool des formatrices ou d'aller coacher, d'aller faire de l'implémentation. Donc oui, engagez-vous et puis il y a même des perspectives d'avenir.
Et toi, est-ce que tu as souvenir de rencontres qui t'ont marqué sur le terrain ou qui t'ont fait comprendre quel était le sens un petit peu de ta présence là ?
Oui, moi je suis très marquée par mes premières missions et tout ce travail avec les accoucheuses traditionnelles. Alors elles savent pas tout, de temps en temps elles ont des pratiques même néfastes, mais vraiment rentrer en communication avec elles et échanger, elles sont beaucoup plus ouvertes que ce qu'on ne le pense. Alors qu'on le veuille ou non, c'est les personnes de confiance dans la communauté, c'est les premières personnes que vont aller voir les femmes, donc elles sont indispensables pour travailler avec. Et puis après j'ai des souvenirs de contact directement avec les femmes. Alors c'est plus compliqué parce qu'il faut des traductions et tout ça, mais c'est vraiment le contact avec les populations sur le terrain qui m'a fait prendre conscience à quel point les femmes étaient une force incroyable pour les individuels, pour les communautés, et qu'on les mettait dans des situations de vulnérabilité. Mais il y a une espèce de fausse image, parce qu'elles, elles ont vraiment énormément apporté. Et ça, je trouve que c'est très fascinant. C'est des très bons partenaires de soins avec qui on fait des choses extraordinaires.
Merci.
Merci.
Herzstone-up. Battement de cœur, le podcast de la Fédération suisse des sages-femmes.